musique est un cri qui vient de l'intérieur.
I still have a dream.
Je rêvais d'un autre monde.
Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme.
On n'a pas que de l'amour. Ça, non.
Tout homme, et à plus forte raison, tout artiste, désire être reconnu. Je le désire aussi.
Tous les mêmes, tous les mêmes, tous les mêmes, et y'en a marre.
And I'm feeling good.
Bonjour à toutes et à tous, Séverine au micro, je suis ravie de vous retrouver sur RQC. Il n'y a pas péril en la demi-heure, une demi-heure pour aborder avec des invités des sujets de société, des sujets d'actualité. C'est tous les troisièmes vendredis du mois entre 13h et 13h30. Le Centre culturel Moucronois programme ce vendredi 23 janvier Dany Parmentier à travers son spectacle Gourou, spectacle à mi-chemin entre le stand-up, TED Talk et une conférence de développement personnel. L'humoriste joue avec les codes et repousse les limites de l'absurde. Il y dévoile des techniques secrètes, certes drôles, mais reposant sur de vrais fondamentaux du développement personnel et pose en toile de fond la question de légitimité de tous ces gourous qui s'infiltrent dans les failles idéologiques logique et existentielle de notre société. Il n'y a pas péril en la demi-heure, s'est intéressé à ce phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur. Nicolas Marquis est professeur de sociologie et de méthodologie à l'UCL, Saint-Louis-Bruxelles. Il y dirige le Centre d'anthropologie, sociologie, psychologie, études et recherches, CASPER. Nicolas Marquis est également promoteur du projet ERC Grantee Coaching Rituals. Il est l'invité de Il n'y a pas péril en la demi-heure.
On a longtemps associé le coaching au milieu sportif. Mais depuis quelques années, il faut bien l'avouer, il a investi de nombreuses autres facettes de notre société. Aujourd'hui, on trouve des coachs dans tous les domaines à peu près, des coachs à toutes les sauces, si je puis dire, des coachs en développement personnel, en entreprise, en bien-être, en santé, en communication et tant d'autres. Comment définir la notion de coaching de nos jours ?
Alors, le coaching, je pense qu'on peut le définir comme une façon de travailler sur autrui, qui a aujourd'hui un certain succès et qui a ce succès parce qu'elle s'oppose aux façons traditionnelles de travailler sur autrui. Dans les façons traditionnelles de travailler sur autrui, il y a l'idée qu'on a une personne en position qu'on pourrait dire haute parce qu'elle a une expertise, parce qu'elle a une fonction sociale, hein, par exemple parce que c'est quelqu'un qui a fait de longues études, un médecin par exemple, ou parce que c'est quelqu'un qui a une fonction sociale, c'est votre chef, c'est votre parent si vous êtes un enfant, c'est votre prof si vous êtes un étudiant, etc. Dans ce modèle traditionnel, la personne en position haute, elle a quelque part le droit, le devoir et l'expertise aussi pour vous dire en fait ce qui est bon pour vous. C'est elle qui sait mieux que vous ce qui est bon pour vous. Et ça, cette forme d'inégalité ou cette forme d'asymétrie, eh bien, elle devient de moins en moins lisible dans le monde dans lequel on est. Et le coaching prend appui sur le désamour qu'on a par rapport à cette inégalité pour proposer un modèle alternatif de travail sur autrui qui veut être moins asymétrique mais qui veut être plus égal, plus égalitaire, plus symétrique. Le coach essentiellement il va dire moi je suis pas au-dessus de vous, je suis à côté de vous, je vous mets une main sur l'épaule et je vous accompagne. Et donc en fait je suis pas expert de quoi que ce soit, alors je peux être expert de certaines choses parce que j'ai moi-même vécu des choses, etc. Mais fondamentalement, je suis pas là pour vous transmettre quelque chose. Je suis là comme expert de votre expertise. Si on devait définir le coach ou le coaching, je dirais selon leurs propres termes, eux vont se présenter comme étant des potentialisateurs. Il y a un potentiel qui est déjà en vous et moi, je suis l'instrument qui va vous permettre de révéler ce potentiel-là.
Alors pour vous, le coaching, ce n'est pas un effet de mode, c'est plutôt le signe d'un changement profond de notre société ?
Oui, je pense. À mon sens, si on veut analyser la montée en puissance du coaching, l'importance que ça prend, il faut différencier deux choses. Premièrement, il y a le mot coaching. Le fait que des gens utilisent cette étiquette, ça s'appellent coach se disent « Ah, ben, cet élève, il faudrait qu'il voit un coach » ou « Ce parent, il faudrait qu'il voit un coach ». Je pense que, en fait, avec le mot « coach », on n'attrape qu'une toute petite partie du phénomène. Pourquoi ? Parce que l'étiquette même de coaching, elle est controversée, elle est très appréciée par certaines personnes et à certains endroits, mais par contre, pour d'autres, c'est une figure de détestation. C'est rédhibitoire de s'appeler coach. Par exemple, vous avez des milieux, comme vous disiez, si on sort des mondes traditionnels où le mot coach est accepté, à savoir la pratique sportive et l'entreprise. Là, je pense qu'il n'y a plus personne qui va aujourd'hui critiquer fondamentalement l'appellation de coach. Mais si on regarde les nouveaux domaines dans lesquels cette pratique intervient, par exemple les soins de santé ou les soins de santé mentale, ben vous avez toute une série d'acteurs qui vont dire « ben non, c'est pas un milieu pour le coaching ». Et donc, on ne parle absolument pas de coach. Mais le problème, c'est que, ou en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas parce que vous refusez le mot « coach » qu'en fait, vous ne participez pas malgré tout dans votre façon de faire à quelque chose qui ressemble à une logique de fond qui se caractérise par le fait de transformer les façons dont vous soignez, les façons dont vous enseignez, les façons dont vous éduquez un enfant, en disant la bonne façon de développer l'autonomie de quelqu'un, c'est pas, comme on le disait tout à l'heure, de lui transmettre verticalement des trucs, de lui imposer des choses, de lui dire que c'est moi qui sais ce qui est bon pour lui ou quoi que ce soit, c'est le fait de se mettre à la même hauteur, d'être dans l'accompagnement. Et donc, oui, de ce point de vue-là, le coaching, au-delà même de son étiquette et du mot « coach », à mon sens, il traduit un glissement social général qui est lié au fait qu'on vit dans des sociétés qui sont quand même individualistes. Alors, ça ne veut pas dire des sociétés du chacun pour soi, ça ne veut pas dire des sociétés où tout le monde est égoïste, mais ça veut dire des sociétés à l'intérieur desquelles l'individu prend une place très importante. Et qu'une vie qui vaut la peine d'être vécue, une vie réussie dans ces sociétés, c'est pas comme dans d'autres sociétés, une vie où vous réussissez à obtenir la place qui est la vôtre, hein, en fonction de votre naissance, en fonction de toute une série d'autres paramètres. Non, une vie qui vaut la peine d'être vécue, c'est une vie à l'intérieur de laquelle vous êtes parvenu à rentrer en harmonie au diapason de vous-même. Ce sont des sociétés dans lesquelles l'autonomie individuelle, elle est aujourd'hui considérée comme très importante, mais ça donne aussi lieu à toute une série de tensions, parce que cette autonomie individuelle, elle est à la fois considérée comme présupposée chez tout le monde, mais donc ça, du point de vue des principes, je dirais ça marche très bien, sauf qu'en réalité, on se rend bien compte qu'il reste toujours une série d'inégalités, qu'on n'est pas tous pareils, qu'on ne va pas tous réussir de la même façon à l'école, qu'on ne sera pas tous des parents qui connaissent le même destin, etc., etc. Et du coup, on se retrouve dans cette société dans une tension que je formulerai de la façon suivante. Comment est-ce qu'on peut aider quelqu'un à devenir autonome si par ailleurs, on présuppose que cette personne est déjà relativement autonome, en quelque sorte. Et donc voilà, de ce point de vue-là, pour moi, le coaching, il est une réponse, en tout cas, il a bien trouvé sa place sur le marché des idées, je dirais, pour tenter d'évacuer un petit peu cette tension en disant « c'est pas moi qui vais prétendre vous rendre autonome, c'est par contre moi qui serai l'instrument de la révélation de votre autonomie, de votre potentiel à vous-même. » Si je peux rajouter encore un tout petit truc, je dirais que essentiellement, traditionnellement, nos sociétés telles qu'elles se sont développées depuis la révolution industrielle, elles se sont développées selon l'idée d'un pacte qui dirait en gros ceci, pour devenir un bon individu, c'est-à-dire un bon citoyen, une personne qui va bien, une personne autonome, vous devez d'abord apprendre à suivre les règles. Et une fois que vous avez appris à suivre ces règles, eh bien c'est par ce même chemin que vous allez obtenir cette capacité à être autonome. Là, on est rentré dans une lecture et dans un monde dans lequel l'acquisition de l'autonomie individuelle, on a beaucoup plus tendance à la penser comme nécessitant une opposition ou en tout cas une prise de distance à l'égard de toute une série de règles et de ce que, dans notre langage commun, on va appeler le système. C'est contre ces normes-là qu'il s'agit de se construire.
Alors, vous dirigez actuellement un projet financé par le Conseil européen de la recherche portant sur le coaching. Vous dites que ces interventions sur autrui, ces coachings donc, prennent la forme de rituels qui permettent à l'individu le passage d'un statut à un autre. Vous pouvez développer ce passage, ce rituel ?
Toutes les sociétés ont besoin de rituels. spirituel. C'est-à-dire que l'être humain étant fondamentalement, comme on dit, un animal social, qui vous êtes et la place que vous avez dans la société, c'est pas vous tout seul qui pouvez la définir, même dans les sociétés individualistes. C'est-à-dire que si je veux qu'on reconnaisse qui je suis, eh bien, j'ai besoin que les autres acceptent cela et cette définition. C'est entre parenthèses la raison pour laquelle généralement, aujourd'hui, toute une série de phénomènes de développement personnel, de travail sur soi, de coaching, etc., il suffit pas de les faire, il faut aussi les raconter. Vous avez énormément de personnes qui, mobilisant les réseaux sociaux, mobilisant d'autres formes de communication, vont exprimer à autrui le changement que ça a produit chez eux, etc. Et donc, on voit bien que raconter aux autres, c'est aussi important que de travailler sur soi-même. L'existence des rituels, c'est une réalité logique, puisque, comme je le disais tout à l'heure, vous pouvez pas décider tout seul qui vous êtes, en fait. Même si on prétend que c'est ce qu'il faut faire dans notre société, vous pouvez pas décider ça tout seul. Et donc, on a des façons de faire qui nous disent qui on est, qui nous aident à travailler sur nous-mêmes, qui nous aident à obtenir une place. Sauf que la caractéristique principale d'un rituel, c'est qu'il a ce qu'on appelle une efficacité symbolique ou une efficacité sociale. Dans un rituel, ce qui fait que ça produit des effets, ce qui fait que vous accédez vraiment, par exemple, à l'âge adulte, ou que vous guérissez, ou que vous êtes désenvoûté, ou quoi que ce soit, c'est pas tellement les gestes précis qui sont posés, hein, qui peuvent être parfois, je dirais, symboliques ou métaphoriques ou quoi que ce soit, c'est le fait que ça rentre en cohérence avec nos idées globales, c'est-à-dire nos idées en tant que société, en tant que groupe, sur la façon dont les choses doivent se passer, sur ce qui est bien, sur ce qui est mal, etc. Et donc, comme nous, nos idées, elles concernent essentiellement le fait que pour être quelqu'un de bien, pour être quelqu'un qui a réussi sa vie, notre boulot, c'est de rentrer en cohérence avec notre potentiel intérieur, et bien quelque part, le coaching, ça nous parle. Mmh. C'est quelque chose qui nous parle dans le sens où ça nous fait faire exactement ça. Ça nous met dans un rapport émotionnel très fort à nous-mêmes, ça nous permet de nous construire un récit sur nous-mêmes qui, par ailleurs, est compréhensible par d'autres. C'est-à-dire que même si vous détestez le coaching, si vous entendez quelqu'un qui vous dit « Ben voilà, moi j'ai fait un stage de développement personnel, j'ai beaucoup travaillé sur moi, et puis mon accompagnateur, qui était en même temps chaman ou guide ou quoi que ce soit, m'a permis de prendre conscience du fait que j'avais des démons intérieurs, etc. » Donc même si vous détestez le coaching, vous comprenez cette phrase-là. Vous comprenez, ça évoque quelque chose pour vous, alors que c'est pas certain que ça aurait signifié quelque chose pour d'autres personnes dans d'autres sociétés. Donc, pourquoi est-ce que le coaching est un rituel? C'est parce que son efficacité, et moi, je ne mets pas du tout en doute le fait que le coaching puisse être efficace dans certains cas. Quand j'ai travaillé sur le développement personnel, j'ai aussi rencontré énormément de personnes qui disaient que le développement personnel leur avait sauvé la vie. Donc la question n'est pas du tout de mettre ça en doute, mais sociologiquement, la question c'est de comprendre que cette efficacité, elle n'est pas tellement liée à la pratique, je dirais, immédiate du coaching, comme on ferait par exemple, si je souffle sur une feuille, elle tombe, ça c'est une causalité mécanique. Le coaching, lui, il n'a pas de causalité mécanique. Ce qu'il fait, c'est essentiellement travailler sur le sens, sur les significations que les personnes donnent aux choses. Et de ce point de vue-là, il a ce qu'on appelle une efficacité symbolique. Ça veut dire qu'en travaillant sur le sens, comme les humains sont des animaux qui donnent du sens tout à tout et tout le temps, en travaillant sur le sens que les personnes donnent aux choses, ça produit aussi, bien sûr, des effets dans la réalité.
Qu'est-ce qui distingue vraiment le coaching d'une relation éducative ou thérapeutique? Vous parliez tout à l'heure donc d'une intervention horizontale et non plus verticale. Parfois, la frontière entre coaching et psychothérapie a l'air quand même parfois ténue.
Ce qui différencie le coaching d'une relation thérapeutique ou d'une relation éducative, c'est d'abord la volonté de se départir de toute forme d'asymétrie, comme on l'évoquait tout à l'heure. Je pense, entre parenthèses, que c'est l'un des points aveugles du coaching, c'est-à-dire c'est pas parce qu'on décrète sur papier qu'on désinstitutionnalise une relation en disant « voilà, on n'est plus ici dans une relation asymétrique enseignant-étudiant ou soignant-soigné, etc. » que par ailleurs, l'asymétrie réelle va disparaître. En fait, les relations de pouvoir, s'il y en a, oui, elles continuent à exister. Simplement, elles peuvent prendre d'autres formes. Mais peut-être que le deuxième point qui différencierait la relation de coaching d'une relation éducative ou d'une relation thérapeutique, c'est précisément la revendication du fait de travailler dans quelque chose qui n'est pas pré-étiqueté du point de vue de la nature de la relation. Si je libelle une intervention sur autrui ou une relation comme étant thérapeutique, ça engage déjà toute une série de réflexions. Ça veut dire « Ah, c'est du soin. Ah, c'est éventuellement de la psychologie. Ah, ça veut dire que la personne va mal. Ça veut dire qu'elle a besoin d'être soignée. » En fait, de ce point de vue-là, et c'est quelque part idem pour la relation éducative. Si on dit éducatif, on pense d'emblée prof, étudiant ou élève. On pense à quelqu'un qui est petit, qui a des choses à apprendre, qui doit éventuellement se faire punir. Je pense que l'une des revendications fondamentales du coaching, c'est que le coaching en tant que tel pourrait être la matrice de toutes les relations humaines d'intervention sur autrui, voire même peut-être de toutes les relations humaines tout court, j'en sais rien, je ne sais pas jusqu'où vont les revendications à cet égard-là, mais que donc, quelque part, en faisant du coaching, on fait tout en même temps. On fait tout en même temps, c'est-à-dire qu'on fait de la thérapie et pas de la thérapie, on fait de l'éducation et pas de l'éducation, on travaille en même temps sur votre rapport à la sphère professionnelle, mais sur votre rapport à la sphère amicale, etc. En tout cas, on peut tout faire, c'est pour ça qu'on parle aussi de coaching, parce qu'il y a beaucoup de succès, de coaching personnel ou de coaching de vie, pour bien montrer que on veut prendre l'individu, comme on dit, de façon holistique, c'est-à-dire ne pas le séquencer en fonction de sphères de vie qui seraient justiciables d'une action particulière, hein, l'éducation, le soin, le rapport à la profession, etc. Mais pour dire que fondamentalement, la clé, l'alpha et l'oméga du développement personnel et du coaching, c'est le fait de travailler sur soi à l'aide d'un coach en acceptant que le gros enjeu du problème, c'est que vous accédiez à ce qui se trouve à l'intérieur de vous. Et donc, quand je dis ça, j'ai une formulation qui est aussi bien plus en résonance avec les idéaux de notre époque. Parce que de ce point de vue-là, on est dans une époque où on a tendance à considérer que les formulations négatives, par exemple le fait de parler en termes de maladie mentale, etc., c'est quand même pas top. Dans le domaine de la psychologie, un des courants qui a pris une ampleur très importante ces dernières décennies, c'est ce qu'on appelle la psychologie positive, et qui est d'ailleurs l'une des inspirations de pas mal de coachs et de logiques du coaching, et dont le message, je dirais, moral et fondamental, c'est ceci. On s'est assez centré sur ce qui n'allait pas et ce qui ne fonctionnait pas dans l'être humain. Si vous voulez vraiment aider les personnes, il faut se centrer sur ce qui fonctionne et il faut renforcer ce qui fonctionne. Et donc, vous voyez, le coaching, ce qu'il prétend faire de ce point de vue-là, en disant « moi, je gère tout et je le fais de façon non négative », c'est premièrement de déstigmatiser, hein, vous n'allez plus voir un thérapeute, sous-entendu, vous avez un problème, vous allez voir un coach, sous-entendu, vous avez un potentiel et vous êtes quand même une chouette personne parce que vous cherchez à le développer. Et deuxièmement, et ça c'est quelque chose qui est très très fort et très très puissant dans le coaching, il organise une définition de la situation où il présente une façon de voir les choses où en fait tout domaine de la vie est coachable et toute personne est coachable. Et ça, c'est quand même quelque chose de très très fort, parce que je pense que toutes et tous, on a quand même une sensibilité, on a quand même plus envie d'entendre, enfin plutôt envie d'entendre qu'en fait on peut s'améliorer quand on est face à des problèmes, plutôt que d'entendre qu'en fait, ben voilà, on est condamné, on traîne notre lot de vieilles casseroles issues d'une éducation compliquée ou issues d'une histoire de famille compliquée, etc. C'est quand même une version plus positive de notre façon de nous voir nous-mêmes.
Là, vous parlez donc des bienfaits du coaching, mais il peut aussi entraîner certaines dérives parfois.
Alors oui, peut certainement entraîner certaines dérives. Je pense d'ailleurs que à travers des spectacles ou à travers des podcasts ou à travers d'autres éléments, il y a des contenus qui nous montrent l'existence de cette dérive. Ce que je trouve intéressant ici, c'est deux choses. La première, c'est que le monde du coaching lui-même, comme le monde du développement personnel d'ailleurs, c'est un monde qui est, comme on dirait, réflexif. C'est-à-dire, c'est un monde qui est capable de porter un discours sur lui-même. Et on le comprend, parce qu'il doit se vendre aussi. Et donc, il connaît très bien la société dans laquelle il évolue, et il sait très bien qu'il y a certaines figures qui sont des figures repoussoires. Par exemple, la figure du gourou est une figure repoussoire. Et à ma connaissance, je pense que vous aurez très très peu de coachs, voire aucun, qui dira, moi j'ai aucun problème à ce qu'on me considère comme un gourou. Non, ce que je veux dire, c'est que même pour les coachs, la figure du gourou va être une figure repoussoire. Ça veut dire que le coaching et les coachs vont avoir eux-mêmes un discours sur ces dérives. Parmi les personnes que j'ai rencontrées, très fréquentes sont celles qui disent, ben oui, bien évidemment, les coachs, hein, qu'il y a des dérives dans le coaching. Mais les dérives, c'est toujours ailleurs, si vous voulez. Et donc, en fait, je pense que tout coach aura besoin, pour se justifier, d'une figure du mauvais coach. Et la figure du mauvais coach, c'est celle dans laquelle on va loger toute une série de dérives, par exemple le gourou, la personne qui dit à une autre personne ce qu'elle doit faire, la personne qui n'a pas réglé ses propres problèmes personnels, etc., etc. Enfin bref, on va présenter une figure du mauvais coach comme étant en réalité l'envers axiologique ou l'envers du point de vue des valeurs de ce qu'est censé être le bon coach. Donc, du côté des personnes, c'est-à-dire des personnes qui suivent des coachings ou qui participent à ça, la question de dérive, elle est hyper compliquée. Pourquoi ? Parce que qui a le droit de dire que c'est une dérive et à partir de quel moment ? Et là, on revient à une question qui est très compliquée dans nos sociétés, qui, pour rappel, présuppose que chaque individu dispose d'une autonomie et que chaque personne est la seule à savoir ce qui est bon pour elle. Et que vous n'avez pas à dire à une autre personne ce qui est bon pour elle. On ne fait pas le bien des gens malgré eux. Mais en respectant ça, est-ce que ça présuppose d'accepter qu'on peut faire le mal des gens malgré eux ? C'est-à-dire que si j'ai un proche qui est avec quelqu'un qu'il ou elle présente comme un coach, mais que de mon point de vue, j'ai l'impression que ça va pas, que c'est sectaire, que la personne, sous couvert d'un discours de prise en charge de soi, etc., se met vachement sous la botte de ce coach, mais qui suis-je pour lui dire qu'en fait, ce qu'elle prétend être de l'autonomie accrue est en fait, de mon point de vue, le contraire de l'autonomie, à savoir soit de la dépendance, soit de l'hétéronomie. Et donc, saisir les dérives du coaching, c'est extrêmement compliqué parce que ça nous renvoie à une question qui est pas, qui ne se pose pas uniquement dans le cadre du coaching, hein, mais qui se pose aussi dans le cadre des sectes, dans le cadre de mouvements religieux, dans le cadre de, pourrait-on dire même pour les critiques, du rapport à la profession, etc. Si vous avez quelqu'un qui, en fait, se rend malheureux et malade du fait de son rapport, j'en sais rien moi, à son boulot par exemple, qu'il est complètement dépendant émotionnellement, etc., de ce boulot-là, mais que cette personne vous dit que ça lui va, qu'est-ce que vous faites avec ça ? Et donc, ça renvoie à cette question compliquée qui dépasse le coaching. Est-ce que, de façon autonome, quelqu'un a le droit de renoncer à son autonomie ? Voilà. Et ça, je dirais, à la fois éthiquement et pratiquement, quand on est confronté à ce genre de situation, on est bien embêté pour pouvoir y répondre.
Oui, je comprends bien, mais à ce jour, ni le titre ni la profession de coach ne sont réglementés par l'État belge. Toute personne peut donc se déclarer coach et exercer une activité de coaching sans devoir justifier ni d'une formation ni d'une expérience spécifique. L'absence de ce cadre légal ou de régulation pose vraiment problème.
Alors oui, ça pose problème.
Mais comment réguler ?
Ce qui me semble compliqué, c'est que pour exister et pour se justifier, le mouvement du coaching, comme d'autres mouvements, je dirais développement personnel, etc., ont besoin de pouvoir se présenter comme alternatif au système et à la structure. Et donc, quelque part, vous avez des tendances, parmi les coachs, vous avez des tendances assez contradictoires par rapport à cette demande de reconnaissance. C'est-à-dire que d'un côté, on voudrait bien être reconnu pour pas que, de notre point de vue, il y a des charlatans qui arrivent ou quoi que ce soit, même si on est toujours le charlatan de quelqu'un d'autre, hein, dans ces mondes où il y a très très peu de régulation. Mais en même temps, on n'a certainement pas envie d'être mis sous tutelle et on a envie, on a besoin quelque part dans un monde qui se montre plus méfiant par rapport aux formes instituées de science, de professionnalisation, de reconnaissance par l'État, etc. C'est quand même un sacré avantage de pouvoir se présenter comme étant alternatif. Et donc, en fait, Quand je dis ça, je dis pas que les coachs ne cherchent pas de légitimité, mais qu'ils cherchent à valoriser des formes de légitimité alternatives. Et il y en a une qu'on connaît très très bien, c'est la légitimité populaire. C'est celle des évaluations ou des étoiles sur Google, par exemple. Et donc, effectivement, de ce point de vue-là, je sais pas s'il y a de quoi s'inquiéter, mais en tout cas, il y a des questions à poser, parce qu'on est quand même, à ce moment-là, dans quelque chose qui est de l'ordre d'un marché, pas complètement dérégulé, mais en tout cas, régulé non pas par des formes de reconnaissance officielles, à mon sens, mais je prends des pincettes en le disant, il peut y avoir dans le coaching, comme dans le développement personnel, comme dans d'autres choses, certaines accointances avec une lecture populiste du monde. Ce que je veux dire par là, c'est pas forcément que le coaching est national populiste ou de droite ou quoi que ce soit, c'est pas du tout ça, mais qu'il y a au moins un point commun qui fait que ce sont deux enfants des sociétés individualistes, c'est le rejet de ce pacte dont on parlait tout à l'heure, ce pacte présenté comme historique, selon lequel il faut qu'on fasse confiance aux règles. Le coaching, comme le populisme, etc., sont des pratiques ou des discours ou des jeux de langage qui se présentent comme disruptifs. Voilà, il faut hacker le système. Mais quand vous êtes dans un discours comme ça, alors la question de la reconnaissance ou la question, je dirais, de la validation par une entité globale extérieure à laquelle vous vous en remettez, en quelque sorte. C'est-à-dire que vous reconnaissez, et c'est contradictoire avec le coaching, de leur point de vue, puisque précisément le coaching, son discours, c'est de dire « moi je ne suis pas expert de quelque chose, mais je suis expert de votre expertise hein ». Et donc, voilà. Et là, on dirait « ah ben voilà, en fait, c'est bien l'État ou la société ou tel ordre, je ne sais pas très bien quoi, qui serait l'expert de la reconnaissance de coachs qui, eux, cherchent précisément à nourrir leur expertise autrement. Donc oui, c'est vachement compliqué, cette histoire-là.
Les coachs ont toujours pullulé sur les réseaux sociaux, sur le net, chacun étant plus expert que d'autres. Que pensez-vous de ces youtubeurs, tiktokers, influenceurs qui s'autoproclament coachs de vie, coachs bien-être ?
Je pense qu'ils présentent autant de versions des contes de fées des temps modernes. Si vous regardez une série de ces vidéos, et je prétends certainement pas les avoir toutes vues, mais je peux prendre un exemple, le film Kaizen, qui a eu énormément de succès auprès des jeunes, notamment sur les réseaux sociaux. J'avoue que je ne sais même plus exactement si le terme coach revient fréquemment, mais on voit bien que c'est ça. Hein. C'est quelqu'un qui développe une pratique sportive et qui s'entoure de coachs, et puis qui lui-même, quelque part, devient coach de tous ses followers en leur expliquant qu'ils ont leur potentiel en eux, etc. Ce sont des récits qui racontent nos contes de fées, ce sont des récits qui racontent les belles histoires qu'on a envie d'entendre et qui, quelque part, éveillent notre sensibilité à un idéal démocratique qui est aujourd'hui mis en grande difficulté par les inégalités sociales concrètes. Les travaux, par exemple, sur la possession du capital ou du patrimoine montrent que, sans doute, ça fait longtemps que la situation n'a pas été aussi inégalitaire entre les personnes. Le coaching, à cet égard-là, il raconte une belle histoire. Hein. Certains diront qu'il joue le rôle d'un opium du peuple ou d'une idéologie. Mais en tout cas, il raconte que, quelle que soit votre ligne de départ ou votre point de départ dans la course, vous pouvez y arriver si vous le voulez vraiment. Et ça, c'est quelque chose aujourd'hui qu'on va retrouver dans absolument tous les domaines de la vie de la société. C'est même une manière, je dirais, de manager du point de vue de la société les personnes, et en particulier les personnes fragiles. C'est de ne jamais condamner quelqu'un à n'être que ce qu'il est actuellement, dans ses difficultés, dans ses problèmes, dans ses souffrances, dans ses handicaps ou quoi que ce soit. Mais c'est systématiquement de retraduire ce que vous vivez aujourd'hui qui est difficile en un potentiel capital pour demain. Mon feeling, c'est que les personnes qui regardent ces vidéos, je pense qu'il y a une grande variété d'attitudes à cet égard. Il y a certainement des personnes qui y croient à fond, mais on a aussi, je pense, des personnes qui regardent ça comme on regarde un conte de fées. Ça veut dire, j'ai vraiment envie d'y croire, en fait. J'ai vraiment envie d'y croire parce que dans une situation qui peut être très, très bouchée, au moins, ça me donne un horizon de possibilités et ça me donne une raison de continuer à me battre. Et donc, je pense que le coaching, en tant que discours prétendant que les portes ne sont jamais fermées, c'est aussi quelque chose qui se nourrit de la faillite d'une organisation sociale qui met les individus en tension parce que d'un côté, ils sont confrontés à des inégalités massives et d'un autre côté, ils sont confrontés à l'idée que face à ces difficultés personnelles ou à la traduction, je dirais, personnelle de ces inégalités, c'est à eux de faire quelque chose. Et donc le coaching, il appuie sur ça. Il retraduit n'importe quelle situation de la façon suivante. Ça ne sert à rien de vous lamenter de tous les trucs systémiques, massifs, compliqués, etc. qui vous sont arrivés. Moi, ce que je vous propose, c'est de travailler sur ce qui est à votre portée, c'est-à-dire vous, en fait, essentiellement vous. Vous travaillez dessus avec votre cerveau, vous changez votre cognition, votre façon de voir les choses, vous faites toute une série de choses pour développer votre potentiel, et puis vous travaillez avec vos mains, avec votre voix, vous travaillez vos représentations sociales. En fait, vous travaillez votre CV, en quelque sorte. Sociologiquement, je dirais que ce que je pense de ces YouTubers, c'est que leur succès montre bien qu'ils occupent une fonction sociale et qui est essentiellement une fonction d'apaisement, au moins temporaire, du caractère extrêmement criant des inégalités dans un monde où le leitmotiv, au moins théorique, c'est celui de l'égalité des chances.
Une dernière question. Lorsqu'on voit aujourd'hui que ChatGPT fait office de psychothérapeute pour certains, peut-on imaginer que dans un futur plus ou moins proche, l'IA remplace les coachs en tout genre?
Alors, c'est une très bonne question. J'ai pas de boule de cristal pour savoir si l'IA remplacera les coachs, mais ça me paraît pas farfelu pour deux raisons. La première raison, c'est qu'en fait, quand on l'étudie de façon, je dirais, relativement extérieure, en fait, on se rend compte que les éléments fondamentaux du discours du coaching, en fait, ils n'ont pas une variété infinie. C'est-à-dire que ce sont souvent les mêmes messages qui sont portés et reportés, qui sont des messages essentiellement moraux. Il y a l'idée qu'il y a plus en nous que ce que nous croyons. Il y a l'idée que si on veut, on peut vraiment. Il y a l'idée que la façon dont on regarde la réalité va avoir des conséquences sur la réalité. Enfin bref, j'en sais rien, il y a peut-être quelques dizaines d'idées comme ça.
Donc une IA pourrait intégrer facilement...
Voilà, c'est ça, qui se répète. Et alors... Ce qui change, c'est l'habillage. C'est le fait de mobiliser parfois des neurosciences, c'est le fait de mobiliser parfois son expérience personnelle, etc. Mais je veux dire, fondamentalement, ces idées-là, alors qu'elles sont banales parce que répétées, ça continue à fonctionner parce que c'est exactement celle qu'on a envie d'entendre, notamment quand on est dans une situation difficile. Et donc, ce que je veux dire, c'est que ce caractère relativement codé du coaching ou des messages fondamentaux du coaching fait que c'est sans doute pas très compliqué pour un modèle de langage large comme une intelligence artificielle de repérer des occurrences fréquentes de qu'est-ce qu'il convient de dire à une personne qui pose une question du style « comment développer mon propre potentiel ?». Donc ça, c'est la première raison. Et la seconde raison, je dirais, c'est que, encore une fois, comme le coaching ne prétend pas avoir une expertise, je dirais, complètement désincarnée de la personne qu'on a en face de nous, ça veut dire que, à la différence d'un psy, ou d'un psychanalyste, un coach, vous pouvez aller le voir juste quelques fois, en fait. Et c'est ce qu'il revendique, c'est ne pas s'enfermer dans un truc très très long. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que, à certains égards, paradoxalement, le coach n'a pas vraiment besoin de connaître complètement la personne, puisqu'il sait qu'elle a un potentiel, et puis il va dire, moi je peux repérer assez vite comment éventuellement débloquer la situation. Et donc, de ce point de vue-là, ce que le coaching fait, c'est d'offrir une chambre de résonance, ou comme on dit dans le coaching sportif, justement à un sparring partner, quoi. J'imagine bien que, comme c'est quelque chose, là aussi, potentiellement de relativement codé, les espaces qui pourraient être créés et qui, sans doute, du point de vue de la proximité avec la nature d'une relation humaine, en tout cas les formes a priori d'une relation humaine, de tout ce que l'IA pourra offrir, sans doute ne va pas régresser, mais va continuer à s'améliorer. Il y a fort à parier que toute une série de personnes trouvent dans l'IA, dans le contact avec l'IA, le sparring partner dont elles estiment avoir besoin. Mais là, on est encore dans une forme qui est infiniment bien plus dérégulée de la relation d'intervention sur autrui que les craintes qu'on a à l'égard de la non-reconnaissance du coaching.
Merci Nicolas Marquis, c'était vraiment passionnant. Merci infiniment de nous avoir accordé cette interview. Merci pour cette expertise.
Voilà, il n'y a pas péril en la demi-heure, c'est terminé. On se donne rendez-vous dans un mois, le vendredi 20 février entre 13h et 13h30 sur RQC. Et sinon, vous pouvez nous retrouver en podcast sur le site de RQC, celui du Centre culturel Moucronois, www.centrecultureldemoucron.be, ainsi que sur les plateformes d'écoute. À bientôt pour un nouvel épisode. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean? Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world, and a bold world for me. When you shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. Oh, freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life.